Tout de suite sur Sensation, retrouvez le journal de TV78, la chaîne des Yvelines.
Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information locale sur TV78. Bienvenue dans cette édition du journal du lundi 12 juillet. Voici les titres. Une prouesse artistique réalisée devant le public saint-quentinois, la funambule Tatiana Mossio Mogonga Bongonga a relié la bibliothèque universitaire à l'immeuble Edison à Guyancourt. C'était samedi, une performance sur un fil à 20 mètres de haut, 100 mètres de traversée au-dessus de la perspective de Martapan, reportage. L'été débute, une période propice pour les collectivités afin de réaliser leurs travaux. Focus sur le programme dans le département des Yvelines avec mes invités, Richard Delepierre, vice-président mobilité et au transport au département, et Pierre Nougaret, directeur interdépartemental de la voie. Zoom également sur les chantiers menés dans l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Et puis du football à la fin de ce journal, alors que la finale de l'Euro 2020 se jouait hier, la Coupe des Nations nantaise prenait fin également à Mantes-la-Jolie, une deuxième édition remportée par le Mali face à l'Algérie devant un public en furie. Retour à la fin de cette édition. Et semaine de fête nationale également cette semaine jusqu'à ce jeudi. TV 78 vous fait vivre ce 14 juillet, premier numéro ce soir, avec la préparation des défilés aériens et pédestres dans les Yvelines. Le président de la République s'exprime ce soir. Il prendra la parole à 20h dans une allocution aux Français. Emmanuel Macron devrait détailler les nouvelles mesures du gouvernement pour contrer l'émergence du variant Delta du Covid-19 en France. 4256 cas ont été détectés ce week-end au niveau national. Des chiffres qui inquiètent également au niveau local. Regardez, sur une semaine, les données de contamination sont en hausse dans les Yvelines. Plus 18,8 pour le taux d'incidence. C'est le nombre de nouveaux contaminés pour 100 000 habitants. Le taux de test positif est repassé au-dessus de 1%. Pour le moment, l'augmentation des contaminations ne se répercute pas à l'hôpital. 123 patients étaient hospitalisés hier dans les Yvelines, moins 19 en une semaine, 22 personnes toujours en réanimation. Et depuis le début de la crise sanitaire, 1852 personnes sont mortes du Covid-19 dans les hôpitaux du département. Avant de parler de la prestation de la funambule dont je vous parlais dans les titres, le dossier de la rédaction toute cette semaine, TV 78 s'intéresse au 14 juillet. Nous débutons ce soir avec une immersion dans les préparatifs de la fête nationale. Dans les Yvelines, les troupes à pied, les unités aériennes s'entraînent pour le jour J. Direction Satory et la base de Vélizy-Villacoublay pour découvrir les coulisses de cette préparation. Un reportage de Nicolas Dandry, Bichente Mayen-Santisteban et Cory Stern-Chagnon.
Ils sont plus de 4400 femmes et hommes à se préparer au défilé pédestre du 14 juillet. Différentes unités dépendantes de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air, de la gendarmerie ou encore des sapeurs-pompiers. Pendant 4 jours, ils se sont entraînés à cette véritable opération, un entraînement avec cet objectif, dégager un sentiment particulier chez les spectateurs.
Ce qui m'importe, si vous voulez, c'est que le défilé dégage un sentiment de force, de puissance et de cohésion. Ça se voit au combat, mais ça se voit aussi dans un exercice un peu technique, voilà, comme l'ordre serré.
L'ordre serré, un exercice de base pour un militaire, ce sont les fondamentaux pour tout soldat aspirant.
Je vois déjà des gens qui arrivent et qui se sont entraînés, c'est très clair. Voilà. Ce qu'il y a maintenant, c'est ce qu'il faut qu'on mette au point, ce sont les réglages. C'est-à-dire qu'il faut que les blocs soient compacts, hein, que les distances entre les unités soient bien respectées, et ça demande de l'entraînement.
Appartenant à l'unité du sous-marin nucléaire d'attaque Émeraude, le quartier maître première classe Romain va défiler pour la première fois. Il vient de terminer une opération de 8 mois menée dans la région Indo-Pacifique. Le défilé, une bouffée d'air frais pour ses marins.
Premièrement, c'était impressionnant de voir tout ce monde. Et il y a toujours des petits réglages à faire, mais on est sur la bonne voie et on sera plus que prêt le jour J. Le défilé pour le 14 juillet sur les Champs-Élysées devant le président de la République, c'est un honneur. C'est de par notre mission qu'on vient de terminer, c'est la reconnaissance de la nation à ses armées et j'en suis très fier.
Dans le ciel de Paris, 97 appareils participeront au défilé 2021. Hélicoptères, avions, chasseurs, différents aéronefs de l'armée de l'air, de la marine nationale, de la gendarmerie ou encore de la sécurité civile, avec une organisation particulière.
Le défilé, qui est constitué d'un ensemble de patrouilles qui vont attendre dans l'ouest parisien qu'on leur donne le top départ, se rejoignent petit à petit sur un axe qui est l'axe de défilé. Et c'est bien par le respect des altitudes, le respect des vitesses, le respect des trajectoires, le respect des horaires, le respect des procédures radio que la sécurité aérienne est garantie.
Pour son deuxième défilé du 14 juillet, le commandant Nicolas pilotera un Mirage 2000D.
Le ravitailleur va ouvrir la voie en se mettant à l'heure et en suivant scrupuleusement une trajectoire. Et c'est après là où j'interviens, moi avec ma MSI Rafale et derrière et MSI 2000D, où à mon initiative, je ferai resserrer le dispositif pour assurer parfaitement l'alignement et la formation lors du défilé.
Comme chaque année, les Alpha Jets de la Patrouille de France ouvriront le défilé, suivi des avions, des troupes à pied, des hélicoptères et des troupes motorisées et montées.
La visite de Nadia Hess ce lundi dans les Yvelines, la ministre déléguée à la ville s'est rendue au Mureau ce matin. Elle est venue signer la convention permettant le déploiement des bataillons de la prévention dans 5 quartiers prioritaires de la ville. 12 éducateurs et médiateurs y seront déployés. Ils auront pour mission d'aller vers les jeunes les plus en difficulté pour les reconnecter à la société, notamment via la scolarité, la formation et l'emploi. L'objectif, c'est de lutter contre la délinquance et la violence. Un dispositif à hauteur de 600 000 euros financé par le ministère de la ville. L'été est un moment privilégié par les collectivités pour effectuer des travaux d'entretien, notamment sur la voirie. Zoom dans cette édition, notamment sur ceux programmés dans le département des Yvelines. Et on en parle avec mes deux invités en visioconférence. Richard Delepierre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le maire de la commune du Chesnay-Rocancourt, tout récent vice-président du conseil départemental en charge des mobilités et des transports. Et également Pierre Nougaret qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes, vous, le directeur interdépartemental de la voirie pour le pays Yvelines-Hauts-de-Seine, l'établissement public interdépartemental qui regroupe depuis 2016 le 78 et le 92, qui sont dans une stratégie de rapprochement. Et d'ailleurs, la compétence de la voirie est une compétence maintenant mutuelle entre les deux départements, c'est bien ça?
Donc les sont restées propriétés des départements et il y a un établissement interdépartemental qui assure la conduite d'opération pour les travaux de chaussée.
Avec dans le département qui gère et entretient un réseau en tout de 1600 kilomètres de réseau routier. C'est important de l'entretenir, peut-être Richard Delepierre, de le moderniser aussi régulièrement, de profiter de périodes peut-être un peu plus creuses comme l'été pour faire ces travaux.
Alors c'est évidemment essentiel, quand on a 1600 km de voie, la priorité c'est évidemment d'entretenir le patrimoine et donc les trois quarts du budget est consacré à l'entretien de ces chaussées. Après, on mène également des projets d'aménagement en matière d'amélioration de la sécurité routière, c'est un sujet sur lequel nos administrés sont évidemment sensibles, donc un certain nombre de chantiers sont consacrés à améliorer ces points noirs en matière de sécurité routière, c'est un budget d'environ 2,5 millions d'euros qui sera consacré cette année sur le sujet. Et puis après, on porte également du développement d'infrastructures de circulation douce. Hein, je pense évidemment aux pistes cyclables qui sont très attendues par beaucoup, beaucoup de nos administrés. Et la rénovation d'ouvrages d'art. Et je voudrais évidemment citer de manière emblématique un chantier qu'on va mener sur presque 3 ans, qui est la réhabilitation du pont entre Sartrouville et Maisons-Laffitte, le pont de la 2e DB. Un chantier à près de 9 millions d'euros. Donc on étale sur 4 exercices pour le réaliser, qui fait aussi partie des missions du département en matière d'entretien de son patrimoine voirie.
On va en reparler tout à l'heure. Sur la période, l'été, c'est, on imagine, propice pour mener ce genre de travaux, pour ne pas trop, on va dire, empiéter sur le quotidien des Yvelinois, que ça ne gêne pas trop le quotidien des Yvelinois. Il y a forcément moins de monde peut-être aussi dans les Yvelines l'été.
Évidemment que dans notre zone urbaine des Yvelines, enfin, de manière dans tout le département, cette période d'été et de vacances est plus propice à la réalisation de ces travaux, que ce soit dans nos communes ou sur les infras du département. Ça gêne moins et donc c'est une période assez classique où on mobilise les équipes pour rénover notre patrimoine et être prêt à la rentrée. Alors il y a des chantiers qui évidemment vont perdurer sur une période plus importante, mais la période estivale est une période où on a beaucoup moins de monde dans nos villes et donc on gêne moins, c'est important aussi.
Et vous avez parlé de ce programme des chantiers, 60 chantiers en tout d'entretien, de modernisation qui vont concerner les routes départementales des Yvelines cet été. Un grand chantier emblématique, on va en dire un mot sur ce pont dans un instant entre Maisons-Laffitte et Sartrouville. Sur les types de chantiers, vous en avez évoqué quelques-uns. On va pas citer les 60, mais les grands types de chantiers que l'on va pouvoir avoir cet été dans le département, quels sont-ils?
Je le redis, c'est essentiellement des projets, des chantiers d'amélioration d'aménagement, d'entretien de la chaussée. Ce qui est important de retenir, et vous l'avez sur la carte des chantiers, c'est qu'ils sont très équitablement répartis sur l'ensemble du territoire. Et ça rappelle la fonction de solidarité qu'a le département vis-à-vis des communes, qu'elles soient grandes ou petites. Évidemment, toutes les petites communes n'ont pas les moyens d'obtenir ce patrimoine, et c'est notre responsabilité d'être présent sur l'ensemble du territoire, et je pense notamment à la zone rurale. Mais puisqu'on va évoquer le sujet de ce pont relie deux communes qui ne sont pas les communes les plus petites des Yvelines, Sartrouville et Maisons-Laffitte sont sur le haut de la pile, et pourtant l'entretien de ce pont dépasse largement les moyens qu'elle pourrait consacrer. Donc le département est solidaire de l'ensemble des communes, petites et grandes, mais évidemment avec une attention toute particulière aux communes les plus petites, et je pense à celles de l'ouest du département, et vous verrez sur la carte, l'ensemble de nos chantiers sont très équitablement répartis sur le territoire. C'est un sujet auquel on attache une importance toute particulière.
Et on peut retrouver la carte sur le site qui s'est affiché déjà en bas de l'écran. Il va s'afficher. Voilà pour le site et retrouver toutes les informations. Redire un mot, vous le disiez, sur ce chantier emblématique, celui de Maisons-Laffitte et Sartrouville, ce pont entre les deux communes, avec un secteur très dense hein, à la circulation. C'est aussi pour ça qu'il fallait agir. Alors, on a compris que l'entretien des routes départementales était quelque chose d'important, mais sur un secteur aussi dense, qui est emprunté par de nombreux véhicules, 28 000 véhicules je crois par jour sur ce secteur. Il était important, oui, de faire ce gros chantier qui va durer 3 ans, hein, vous en parliez tout à l'heure.
Oui, peut-être que M. Nougaret pourra apporter quelques éléments sur la nature de ce chantier assez atypique.
Oui. M. Nougaret, est-ce que vous avez des éléments supplémentaires à nous apporter ?
C'est un ouvrage d'art qui a été construit après la guerre, et donc sur lequel qui est arrivé avec un degré d'usure de certains équipements, et qui convenait de rénover de manière lourde et importante. Donc les travaux se passent surtout sur la sous-face du tablier, en dessous du pont, donc on ne voit pas forcément qu'on circule en surface, et on a réduit les conditions de circulation de manière à quand même pouvoir laisser passer les voitures, mais il y a quand même des limitations de largeur, des limitations d'accès pour les piétons et les vélos. L'idée, c'est de travailler pour changer un certain nombre d'équipements qui se situent en sous-face de tablier. Et comme on fait tout ça sur circulation, bah, c'est long. On peut pas couper le pont, parce que vous imaginez bien ce qui se passerait si on coupait la circulation. Donc c'est pour ça que ça s'étale sur 3 ans, avec une première phase assez importante qui commence à l'été, cet été. Voilà ce que je peux dire sur ces travaux.
Et on arrive déjà à la fin de cet entretien, mais je le répète, hein, le site internet qui s'est affiché pour avoir la carte de ces chantiers, éviter peut-être les désagréments, voir s'il y a des impacts sur la circulation, restez informé via le site qui s'affiche en bas de l'écran. Et donc je le disais, hein, 60 chantiers cet été sur les routes départementales des Yvelines. On va vous remercier, merci à vous Richard Delepierre, et merci à Pierre Nougaret d'avoir été avec nous et d'avoir parlé de ce sujet, de l'entretien et de ces travaux d'été des routes départementales. Alors justement, après les Yvelines, plaçons le curseur sur une agglomération, celle de Saint-Quentin en Yvelines. Plusieurs chantiers d'été sont déjà en cours. Environ 5 km de voiries sont concernés pour un budget d'un peu plus d'un million d'euros. Les détails avec Astrid Bergère, Mélanie Poquet et Patrick Jacques de Dixmude.
5 km au total, 9 villes de l'agglomération concernées. Une partie de la voirie de Saint-Quentin en Yvelines se refait une beauté durant l'été.
Il s'agit soit de travaux d'aménagement, soit d'entretien des voiries existantes. Donc vous savez qu'il y a un patrimoine important sur Saint-Quentin, donc il s'agit soit de le rénover, soit de requalifier des voiries, parce qu'on a un axe important notamment de rendre la circulation plus pacifiée pour les circulations douces. Donc on fait aussi des travaux d'aménagement de pistes cyclables complémentaires par exemple.
12 opérations sont prévues. L'ensemble des travaux est majoritairement financé par l'agglomération. Ils se dérouleront jusqu'à la fin du mois d'août.
C'est pour minimiser les nuisances. Hein. Qui dit travaux sur de voirie, de réfection de voirie, veut dire blocage, fermeture des voiries, au moins partiellement, notamment lorsqu'on a des travaux de nuit. Déviation des réseaux de bus également. Puis dit forcément un peu d'encombrement. Donc tout l'intérêt, c'est de faire ça là où il y a le minimum de nuisances possible.
Et les gros travaux continuent aussi, comme les aménagements de la RN10 à Trappes.
On a un travail d'enfouissement de voirie qui est quand même très conséquent. Donc là, les travaux vont accélérer cet été, notamment sur la deuxième quinzaine du mois d'août, avec la démolition de l'ancien pont Cachin qui surplombe la N10, et avec un pont provisoire qui vient d'être installé. C'est sans doute les travaux les plus importants en termes d'impact à venir, et avec un budget qui n'est pas que 50.
Ces travaux de rénovation occasionnent des déviations de bus ou des fermetures de routes. La Covid n'a pas ralenti le calendrier, le nombre de chantiers n'a pas augmenté pour cet été 2021.
Le 8 avril dernier, la ville de Mantes-la-Jolie apprenait que le Val-Fouré était retenu comme quartier innovant et écologique par la région Île-de-France. Une enveloppe de 4 millions d'euros qui va permettre de financer des opérations d'aménagement durable de 4 espaces publics. Les détails avec Mélanie Poquet et Alex Béraud.
Des rues bientôt revalorisées, Ninguesser et Colli, Doré et Docteur Bretonneau font partie du renouvellement urbain du Val-Fouré. Il est labellisé quartier innovant et écologique par l'Île-de-France.
Si nous ne rénovons pas ces quartiers, si nous ne reconstruisons pas ces quartiers, eh bien c'est des êtres humains qui vont vivre mal, qui vont avoir des conditions de vie se dégrader. Ici, c'est 22 000 habitants sur ce quartier qui, au fond, est plusieurs quartiers. C'est une ville et nous ne pouvons pas accepter que 22 000 habitants soient dans une condition de vie dégradée.
La signature a eu lieu vendredi 9 juillet dernier, un financement à hauteur de 4 millions d'euros, le montant maximal possible. 3 autres aménagements sont prévus, ils concernent les mailles Lopez et Ronsard et les abords de l'école Rouge et Bleu.
On va avoir des nouvelles promenades à l'intérieur de Val-Fouré. On va créer des chemins pour qu'on puisse se déplacer à pied, en vélo, en trottinette. Les gens ont une demande de mobilité différente. Et quand on a fait nos réunions de concertation, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « mais le quartier du Val-Fouré, il y a beaucoup d'espaces verts, mais ils ne sont pas assez mis en valeur ».
Ce label est un contrat de 4 ans qui peut être prolongé de 2 années supplémentaires. Un projet de renouvellement du quartier du Val-Fouré, plus large à hauteur de 400 millions d'euros, est lancé.
On reste à Mantes-la-Jolie avec du football, dénouement ce week-end de l'Euro 2020, l'épilogue aussi pour la Coupe des Nations mantaise. 16 équipes s'affrontaient depuis un mois au stade Jean-Paul David. La finale voyait s'opposer ce dimanche le Mali au Sénégal. Retour sur la compétition qui a encore attiré les foules sur les images d'Astrid Bergère.
11 juillet 2021, jour du sacre de l'Italie à l'Euro face à l'Angleterre, jour également de victoire pour le Mali à la Coupe des Nations mantaise. Au terme d'une finale qui a fait le plein au stade Jean-Paul David de Mantes-la-Jolie, l'équipe s'impose 3 buts à 1 contre l'Algérie. La joie des supporters au rendez-vous grâce à des buts de Koulibaly et un doublé de Baradji, le Mali succède à la République démocratique du Congo au palmarès de la jeune compétition.
C'est tellement chose que je ressens que je ne peux même pas décrire ce que je ressens. Que la victoire, que le Mali. Mali puissance I. Mali puissance I.
Mali puissance I.
Mali puissance I.
Un nouveau succès pour la Coupe des Nations mantaise qui revenait pour une deuxième édition à Mantes-la-Jolie. Pendant un mois, 16 équipes se sont affrontées pour la victoire finale. De la France au Ghana en passant par le Portugal et la Tunisie. Sont joués avant le coup d'envoi. Les matchs se disputent devant une tribune qui pouvait accueillir jusqu'à 3500 supporters. Une grande fête organisée par l'association Jeunesse et Diversité après les nombreux confinements.
C'est un moment où on se retrouve. C'est un moment qui nous permet de penser à autre chose, de pouvoir passer des moments aussi en famille, parce qu'il faut le dire, il y a des familles qui sont ici présentes et des enfants, le maire qui est là, les autorités. Donc c'est une fête pour toute la ville de Mantes-la-Jolie.
Un moment très apprécié par les spectateurs mantais.
Ça permet aux jeunes qui restent dans la cité de s'éclater, s'épanouir, c'est le mélange des cultures.
C'est bien, ça nous permet de tous nous réunir et voilà. De permettre aux jeunes qui ne vont pas en vacances de profiter un minimum. Tu vois.
La Coupe des Nations mantaise, un événement déjà installé à Mantes-la-Jolie. Le rendez-vous est d'ores et déjà donné en 2022 pour la 3e édition.
La remise de trophée.
Et dans un instant, on parle sport dans le 7-8 Sport présenté par Mickaël Elmidoro. C'est à retrouver à partir de 18h30 sur TV78. Plusieurs reportages au programme et notamment cette soirée MMA sur laquelle Mickaël Elmidoro reviendra. C'était une compétition d'arts martiaux mixtes qui était organisée samedi 10 juillet au SDCL Center de Morpaille. Une dizaine de combats étaient au programme dans cette soirée. Retour sur cet événement avec des images de Patrick Jacques de Dixmude.
Cache de la sueur, des coups spectaculaires, le SDCL Center de Maurepas a organisé un gala d'arts martiaux mixtes ce samedi 10 juillet. Le rendez-vous de MMA faisait partie du FFA Challenge.
Nous ici on est ouvert depuis 9 ans et ça fait c'est notre cœur de métier. Donc pouvoir combattre, pouvoir voir les gars qui sont entraînés dur toute l'année, pouvoir aller s'exprimer avec d'autres personnes en France, c'est génial.
Au programme, 10 combats professionnels de la catégorie des moins de 57 kg aux moins de 120 kg, dont 2 combats féminins. Parmi les participants, un local qui s'entraîne dans cette salle de Maurepas.
Le FFA Challenge, c'est y a un bon niveau. Il y a beaucoup de jeunes combattants qui débutent. Et le niveau ce soir va être élevé, je pense.
Pour permettre au plus grand nombre de voir les combats, le rendez-vous à huis clos était retransmis en direct sur une plateforme de streaming.
Il faut que ça soit du live, parce que comme pour l'instant, on évite les regroupements de trop de personnes, de pouvoir l'élargir et que tout le monde puisse le voir en même temps qu'on le fait, c'est génial. On n'a pas l'impression d'être encore à huis clos, quoi. Malgré tout, on a tout le monde qui peut suivre.
Les internautes ont notamment pu voir le club de Maurepas briller également dans la cage avec la victoire de l'Ivinois Maxime Fondop-Siboué au deuxième round par KO.
J'ai attendu le bon timing. Et j'ai senti le coup, après je lui ai donné et comme on dit, ça a fait mouche. Donc voilà, je suis très content aujourd'hui, mais j'ai encore beaucoup de travail à faire.
Un autre combat devrait être organisé en octobre dans les Yvelines avec du public cette fois-ci, si les conditions sanitaires le permettent.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Le sujet dont je vous parlais en début de journal avec cette prouesse artistique, je vous le disais, réalisée par une funambule dans le ciel saint-quentinois, celle de Tatiana Mossio-Bogonga, qui a relié la bibliothèque universitaire de Guyancourt à l'immeuble Edison, qui est toujours à Guyancourt. On vous en parlait, eh bien, dans les titres de ce journal. On ne va pas pouvoir vous proposer ce reportage ce soir en raison d'un problème technique. Il sera bien sûr à retrouver dans une prochaine édition du journal sur TV 78. Très belle soirée à tous.
Retrouvez le journal de TV78 à tout moment en replay vidéo sur tv78.com.